Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria-Brown, Aliette Ovine et Alain de Recours. À la réalisation, Anne de Pelchin, à la console, Pascal Baudin. Aujourd'hui, cap sur Las Vegas et sa grand-messe de l'innovation.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Cette semaine, l'écho de l'actualité résonne au Consumer Electronics Show, le grand salon des nouvelles technologies de Las Vegas. La crème des inventeurs se réunit pendant 4 jours pour présenter au grand public des innovations qui, espère-t-il, envahiront les foyers demain. La bataille mondiale pour la high-tech est lancée et si les États-Unis dominent toujours le secteur, ils sont désormais talonnés par la Chine et ses BATX. Une course à l'innovation qui se heurte à des obstacles industriels mais aussi écologiques. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler du marché de l'high-tech en compagnie de Jean-Paul Maréchal, économiste, maître de conférences à l'université Paris-Saclay, en compagnie également de Sophie Collier, journaliste indépendante, et de Xavier Brucker, ingénieur et associé chez News Partner, une société de conseil dans les nouvelles technologies.
Alors voilà, nous fixons un câble électrique de type industriel au sommet de l'hôtel de ville et nous le suspendons au-dessus de la rue entre ces deux réverbères. Auparavant, nous avons équipé la machine à voyager dans le temps d'une perche et d'un crochet directement reliés au convecteur temporel.
Une télévision quasiment sans bord, inconcevable il y a encore quelques années. Avec cette télévision pivotante qui peut s'utiliser à la verticale, les marques ont pour objectif d'arracher ce qu'ils appellent les millennials à leur smartphone. Afin qu'ils puissent consommer leurs contenus verticaux favoris, notamment les réseaux sociaux.
Bon, disons que tu as énormément de retard pour une réunion importante. Tu es en route et alors tout d'un coup tu t'aperçois que t'as oublié de te raser. Dans des circonstances ordinaires, ça poserait un réel problème. Mais là non, puisque tu as la salle de bain de poche.
Si le partenaire A est dans une ville et que le partenaire B est dans une autre ville, que ce soit un homme ou une femme, deux hommes ou deux femmes, ils peuvent synchroniser leur sextoy avec celui de l'autre, ce qui permet de garder une relation physique entre eux, même à distance.
Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes.
Voilà, des innovations d'hier et d'aujourd'hui, réelles ou fictionnelles, dénichées par notre réalisatrice Anne de Pelchin. Bonjour Jean-Paul Maréchal, Sophie Collier et Xavier Brucker.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, comme chaque année, le CES de Las Vegas regorge d'inventions diverses et variées, mais on peut dire qu'elles seront rares les inventions qui se traduiront en succès économique, Xavier Brucker.
Oui, le CES est une grand-messe effectivement qui rassemble énormément d'innovations de plein de pays. L'ensemble des innovations n'ont pas forcément vocation à être déployées sur le marché, mais c'est là qu'on voit les grandes innovations sortir, les grandes directions de l'industrie, et c'est la démonstration de force des différentes grandes entreprises et des différents pays de montrer leurs meilleures innovations sur l'année.
C'est le dernier jour aujourd'hui. Quels ont été les temps forts ou les grandes inventions qui ont marqué ce Consumer Electronics Show de Las Vegas?
Alors cette année, le show était moins innovant ou disruptif que les années précédentes. On était beaucoup plus dans une continuité par rapport aux années précédentes. On a pu voir, comme d'habitude, les voitures volantes, les télés effectivement qui sont de plus en plus définies avec des fonctionnalités très avancées. La télé pivotante effectivement qui était un exemple typique du genre de produit qu'on peut voir là-bas. On a vu beaucoup de choses autour de la 5G qui reste un sujet de développement important et l'ensemble des utilisations des objets connectés qui se développent de plus en plus aidés par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et qui sont de plus en plus présents effectivement dans tous les stands.
En vous écoutant Xavier Brucker, on se dit que le secteur de la haute technologie c'est un secteur qui regroupe quantité d'industries très diverses. Comment est-ce qu'on pourrait définir, Jean-Paul Maréchal, ce qu'est la haute technologie et les secteurs qu'elle recouvre?
C'est difficile de définir la haute technologie en tant que telle. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est la haute technologie, c'est des technologies qui se situent sur ce qu'en économie on appelle la frontière technologique. Et donc, on dit qu'un pays est sur la frontière technologique lorsque les inventions et les innovations qui ont lieu dans son économie augmentent le stock mondial de connaissances. Tant que vous n'êtes pas dans cette situation-là, vous n'êtes pas sur la frontière technologique. Donc effectivement, bah, y a un grand nombre de secteurs ou de branches qui se situent ou qu'on peut situer comme ça spontanément dans la haute technologie. C'est évidemment les technologies de l'information et de la communication, mais c'est aussi l'aéronautique, c'est aussi des secteurs comme l'automobile qui incorpore de plus en plus des technologies de pointe. Donc
et l'énergie auquel on ne pense pas toujours.
Évidemment, et l'énergie, les technologies vertes, par exemple, tout ce qui est cellules photovoltaïques, éoliennes, enfin toutes les nouvelles technologies, comme on dit, qui permettent de produire de l'énergie avec autre chose que des combustibles fossiles. Mais même si on voulait un peu préciser, dans le domaine de l'énergie, on ne peut pas exclure évidemment le nucléaire des nouvelles technologies, puisque évidemment on voit bien avec les nouvelles centrales nucléaires qu'on mobilise des technologies différentes. Et même si on prend une source d'énergie un peu ancienne comme le charbon, par exemple les Chinois font des centrales à charbon supercritiques qui mobilisent évidemment des technologies qui n'étaient pas mobilisées il y a 20 ou 30 ans dans ce type de dispositif.
Sophie Collier.
Oui, aujourd'hui, la haute technologie, c'est effectivement tout ce que vient d'évoquer Jean-Paul Maréchal, mais c'est aussi, je crois qu'il s'est passé quelque chose qui a rendu le numérique absolument diffus dans tous les domaines de l'économie, qui est cette transformation numérique dont on parle. Alors, on connaît beaucoup, on connaît les produits de ce qu'on appelle l'électronique grand public, donc de la télévision, smartphone, en passant par le thermostat connecté à la maison et des choses comme cela. Mais aujourd'hui, il y a cette transformation numérique touche les entreprises, toutes les entreprises, à la fois dans les outils qu'elles utilisent, c'est-à-dire qu'on fait du collaboratif, on fait de la visio. D'ailleurs, avec les grèves en ce moment, on voit bien qu'il se passe des choses aussi. Beaucoup de gens télétravaillent, communiquent autrement, ont appris de nouvelles façons de travailler.
D'où les tensions autour de la 5G, justement, et de la révolution qu'elle est censée provoquer.
Il y a ça, parce que la 5G, ça va être l'automobile autonome, c'est toutes les maisons connectées, c'est les smart cities, c'est tout un tas de sujets. Mais ça touche aussi, et on le voit peut-être moins, et la haute technologie est le vecteur de tout ça, les entreprises se transforment numériquement en transformant numériquement leurs produits, leurs offres, leurs services. Et c'est, du coup, on arrive à des choses, la banque en ligne, c'est la transformation numérique du métier de banquier qui fait qu'aujourd'hui, on consulte son compte en banque sur un smartphone et donc il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de bandes passantes.
Et c'est un secteur économique absolument incontournable parce que, si l'on en croit Schumpeter, c'est le cycle de l'innovation qui est le cycle moteur de la croissance, Jean-Paul Maréchal.
Ah oui, alors là donc, effectivement, Schumpeter fait partie des auteurs qui ont effectivement insisté beaucoup sur l'innovation. Alors, il faut bien distinguer chez Schumpeter l'innovation de l'invention. Et l'invention, c'est purement technique. L'innovation, c'est lorsque l'invention va trouver un débouché commercial. Bon. Et donc, chez Schumpeter, l'innovation peut revêtir plusieurs formes. Ça peut être une nouvelle source d'énergie, ça peut être un nouveau produit, hein, comme on disait. Mais ça peut être, et aussi ça permet de rebondir sur l'intervention précédente, ça peut être aussi un nouveau mode d'organisation. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, lorsque on crée la société anonyme, c'est un nouveau mode d'organisation, donc on peut classer ça dans la catégorie des innovations. Vous voyez, l'innovation, c'est pas simplement un nouveau produit, ça peut être de nouvelles façons de s'en servir, ça peut être de nouvelles organisations, de nouveaux marchés à conquérir et de nouvelles sources d'énergie, de mémoire, c'est les quatre types d'innovation que cite Schumpeter dans son Capitalisme, Socialisme et Démocratie, qui paraît en 1942. Donc, vous voyez, c'est déjà relativement ancien, mais toujours...
Mais l'héritage est encore bien présent. Et alors, peut-être qu'on peut considérer qu'une entreprise appartient au secteur de la haute technologie lorsqu'elle investit fortement dans la recherche et le développement. Ça, c'est un indice, Xavier Brucker?
Oui, bien sûr, c'est un facteur qui est clair. Maintenant, la nouvelle technologie, ça se voit effectivement sous plein de modes différents et y compris des modes de collaboration, comme on disait tout à l'heure. Donc, c'est beaucoup plus large aujourd'hui que ce que ça a été, je pense, dans le passé. Et ça correspond à une création d'innovation, quelle qu'elle soit. Et on voit qu'aujourd'hui, l'innovation, entre les États-Unis, la Chine et l'Europe, les différents pays ont des façons différentes d'appréhender ces innovations et de créer des nouvelles technologies au sens large.
Sophie Collier.
Oui, une chose pour préciser, je pense que il y a un mot qu'on commence à entendre et qui va devenir de plus en plus important, c'est la dataïsation de l'économie. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce dont on est en train de parler, une activité, qu'elle soit industrielle, de service et même agricole aujourd'hui, c'est essentiellement du traitement de données, de l'information qu'on va traiter. Et après, on va traiter pour produire, ou on va traiter pour transformer, ou on va traiter pour inventer. Mais tout, on est de plus en plus, et cette haute technologie nous apporte ça, une dataïsation de l'économie.
Ce qui soulève bien sûr des enjeux de sécurité de la donnée, mais alors on va venir à cet affrontement pour le leadership technologique entre les États-Unis et la Chine, mais d'abord, comment comprendre et comment bien comprendre que les États-Unis soient devenus leaders dans ce secteur ? Peut-être qu'il faut revenir à la guerre froide, Jean-Paul Maréchal, à la rivalité avec l'URSS. C'est grâce aux innovations militaires que les États-Unis ont pris de l'avance.
Ça c'est incontestable. Mais alors là, bon, à ce moment-là, on n'est pas tout à fait dans les technologies de l'information et de la communication telles qu'on en parle maintenant, puisqu'il faut quand même attendre l'après-deuxième guerre mondiale pour qu'on assiste à l'apparition réelle d'ordinateurs, etc. Bon. Mais par exemple, si vous prenez un secteur comme l'aéronautique, dont on parlera peut-être un peu plus tard, il est évident qu'une entreprise comme Boeing a naturellement bénéficié de la deuxième guerre mondiale pour développer son expertise sur des avions à long rayon d'action, et puis que la guerre froide a permis de développer des bombardiers B-47 et B-52, mais que si on prend l'avion qui a un peu changé le monde, à savoir le Boeing 707, ben, il est à la fois le produit de cela, puisqu'en fait Boeing le font, il va mettre 10 ans à être rentable, hein, ils le font avec l'idée que les militaires vont l'acheter, mais aussi ce qui va permettre à cet avion de trouver son marché, c'est que à l'époque, aux États-Unis, le prix du billet est administré. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une compagnie aérienne et que vous faites Washington, San Francisco, ben vous pouvez pas baisser le prix du billet. Et donc finalement, les compagnies rivalisent sur les services rendus aux clients, et parmi les services rendus aux clients, en dehors effectivement des repas à bord, des journaux, etc., il y a la vitesse. Et c'est ça qui va permettre effectivement à Boeing de vendre son Boeing 707 et de prendre une part de marché qui jusque-là était occupée par Lockheed avec le Super Constellation. Et donc c'est important, vous voyez, parce que on a trop tendance à penser que c'est la liberté de la concurrence qui crée l'innovation. Et là, par exemple, dans le secteur aéronautique, on s'aperçoit que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est précisément à la fois des dépenses militaires et un marché administré qui a justement, vous voyez, sur fond de guerre froide, permis à l'aéronautique de se développer. Et si, je termine juste d'un instant sur votre question, si vous prenez les nouvelles technologies de l'information et de la communication, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que aussi bien avec les microprocesseurs qu'avec Internet, anciennement ARPANET, on vit finalement dans un monde technologique qui a été créé par le Pentagone. C'est-à-dire en réalité avec des innovations qui n'ont rien à voir avec la concurrence, mais tout à voir avec une politique de puissance de la première puissance militaire du monde, qui est les États-Unis.
Ce qu'on entend bien, c'est qu'il a fallu une forme de dirigisme dans cette politique de développement des innovations aux États-Unis, Sophie Collier, et ce serait aussi le cas, c'est aussi ce qui s'est passé en Chine.
Alors, aux États-Unis, c'est clair que toute l'informatique, ce qu'on a appelé longtemps l'informatique et qu'on appelle aujourd'hui le digital ou le numérique, est née d'abord dans le secteur militaire pour fournir des moyens de communication confidentiels et protégés. Donc ça, c'est la naissance d'ARPANET qui est devenue ensuite Internet. Et la Silicon Valley qu'on voit aujourd'hui, qu'on connaît aujourd'hui, faut voir que quand c'est né dans les années 80, c'était très alternatif. C'est né sur les grandes commandes militaires ou de l'armée, y compris les développements électroniques, bien sûr, enfin de microélectronique, les développements logiciels. Mais c'était aussi créer un mouvement. C'était dans la suite du mouvement hippie, Berkeley, hein, on n'est pas loin. Et c'était créer une alternative, un endroit où on fasse de la technologie, qu'on se réapproprie la technologie. Aujourd'hui, c'est complètement différent. En Chine, la stratégie est très différente. C'est très dirigiste. C'est à vocation. Enfin, le gouvernement, l'administration chinoise incite au développement d'innovations pointues pour le bien de la nation et le progrès de la nation.
Sur plusieurs hectares, les ateliers de fabrication où sont assemblés des produits Apple, mais aussi certains gadgets de Hewlett-Packard et Amazon. Il y a aussi ces immenses dortoirs. 250 000 personnes sont employées ici, la plupart venues des provinces les plus pauvres du pays. Beaucoup n'ont même pas 20 ans.
Faut lever la main quand j'appelle votre nom.
Dès les premières minutes du recrutement, ils doivent se plier aux ordres et faire des heures de queue pour signer leur contrat.
Tais-toi, tu gênes tous les autres. Arrête, il y a des centaines de personnes qui attendent à cause de toi.
Aux ordres permanents s'ajoutent des conditions de travail éprouvantes. Dès les premiers jours, ils seront affectés au travail de nuit, sur les lignes du contrôle qualité des iPads, dont la production ne s'arrête jamais.
Les dures conditions de travail dans les usines de l'entreprise Foxconn à Shenzhen, extrait d'un reportage d'Anne Poiret. Foxconn est l'exemple peut-être le plus emblématique de la mondialisation du secteur de la high-tech, et en particulier de l'électronique, Jean-Paul Maréchal.
Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que grâce aux technologies de l'information et de la communication, dont on parle depuis le début, qui sont plus si nouvelles que ça, contrairement à l'expression NTC, qu'on utilise un peu trop souvent, c'est clair que ces technologies de l'information et de la communication ont permis, avec leur massification, leur développement, une segmentation de la chaîne de valeur à l'échelle internationale. Oui, pourquoi ? Parce que en fait, ça réduit les coûts de transaction, c'est-à-dire que c'est moins cher aujourd'hui pour une entreprise américaine de s'installer en Chine que ça n'aurait été le cas il y a 20 ou 30 ans. Vous voyez, donc ça entraîne moins de coûts. Et donc c'est véritablement dans les années 90 et 2000 qu'apparaissent non pas des sociétés multinationales en tant que telles, mais la multinationalisation des processus de production. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile à faire quand vous produisez des biens qui intègrent des produits de petite taille, parce qu'évidemment, c'est plus facile à transporter d'un endroit à l'autre. Et les smartphones dont on parle, il y a un certain nombre de composants qui viennent de Chine, mais d'autres qui viennent de Taïwan, d'autres qui viennent de Corée, d'autres qui viennent du Japon.
Mais si on observe les composants qui viennent de Chine, il y a une étude qui est parue en 2010, et deux chercheurs ont estimé que la création de valeur de la Chine dans un iPhone était de seulement 3,6%, loin derrière les 34% de produits japonais, 17% de produits allemands, 13% de produits coréens et 6% de produits américains. Ça, c'est ce que rapportent les Échos. C'est pour cela, Sophie Collier, que la Chine, qui a longtemps été l'usine du monde, aujourd'hui affiche des ambitions en matière de haute technologie. Elle veut avoir davantage de valeur ajoutée, tout simplement.
Tout à fait. Je crois qu'il y a... Pour reprendre ce qu'on appelle la chaîne de valeur globalisée, c'est un concept qui est né dans les années 80, à peu près, à l'initiative, il y a un très beau rapport de la Banque mondiale là, qui circule, qui reprend tout ça. C'est quoi une chaîne de valeur mondiale? C'est une chaîne qui fractionne le processus de production, comme le disait Jean-Paul Maréchal, on va entre plusieurs pays. Et les entreprises se spécialisent, du coup elles n'ont pas à produire un bien entier. Okay, donc sur cette idée-là, le concept dans les années 90, c'était de dire super, ça va permettre le développement des pays pauvres. C'est-à-dire qu'on va aller faire dans chaque pays ce qui va nous coûter le moins cher à faire là-bas. Et ça a permis un très fort développement de la Chine, parce que tout le monde est allé en Chine faire des choses qu'on ne connaissait pas. C'est la naissance de Foxconn qui est devenue... Foxconn aujourd'hui produit... Tous les produits Apple.
Et qui est une entreprise taïwanaise, il faut le
voilà,
souligner.
Voilà, Foxconn, qui est une entreprise taïwanaise, tout à fait, qui emploie 1 million de personnes en Chine dans ses nombreuses usines pour faire les iPads, les iPhones, etc. Puisque Apple est son principal client, représente à peu près la moitié de son chiffre d'affaires de 170 milliards de dollars, à peu près.
Sauf qu'aujourd'hui, la Chine ne veut plus simplement produire ses différents smartphones, elle veut aussi les concevoir, Xavier Brucker.
Oui, elle veut les concevoir. Alors, effectivement, il y a ce qu'il faut voir dans la valeur ajoutée dont on parlait tout à l'heure, c'est que la valeur ajoutée n'est pas forcément la plus... La valeur ajoutée américaine, par exemple, si on prend les 6% dont on parlait tout à l'heure, est à certainement beaucoup plus forte valeur ajoutée en termes de conception. C'est-à-dire que peut-être qu'en termes de prix de composants, c'est relativement faible, mais en termes de complexité et d'ingénierie qui vient dans les composants, c'est énorme. Et c'est aujourd'hui un des sujets de la Chine, c'est de devenir indépendant sur ce plan-là. Et on voit bien avec les mouvements de licensing, de gestion des licences entre les États-Unis et la Chine, il y a énormément de luttes au-delà des brevets. Il y a énormément de luttes pour savoir est-ce que la Chine a le droit d'utiliser des technologies américaines et comment la Chine peut devenir indépendante pour concevoir des nouveaux systèmes d'exploitation, des nouveaux nouvelles puces, des nouveaux microprocesseurs de manière entièrement indépendante par rapport au leadership américain.
Il y a une vraie volonté de monter en puissance technologique du côté de la Chine, Jean-Paul Maréchal.
Ça, c'est incontestable. D'ailleurs, il suffit de refaire un tout petit peu d'histoire. Hein. C'est que en 2015, le gouvernement chinois lance le plan Made in China 2025. Hein. Donc, c'est pas rien du tout. 7 ans auparavant, en 2008, il y avait eu le plan des 1000 talents qui consistait à essayer de faire venir en Chine un certain nombre d'ingénieurs, etc. Mais l'étape dont on parlait, là, assembler des iPhones, il faut pas s'imaginer que c'est rien, parce que ça permet de développer une culture industrielle. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez pas passer de rien à la conception d'un iPhone ou d'un Airbus 350. Bon, et donc ce que les Occidentaux ont pensé à tort pendant des années et des années, et ça serait intéressant de revenir sur toutes les déclarations qui pouvaient être faites il y a 10 ans ou 15 ans, c'était que de toute façon, les Chinois, c'était pas grave, ils allaient simplement se contenter d'assembler. Comme si sur la chaîne d'assemblage ne se créaient pas des savoirs. Et donc on avait, si vous voulez, cette espèce de vision assez idyllique, selon laquelle finalement, les Chinois, assembler, ça leur suffirait amplement, et nous, on se contenterait de concevoir. Et ben, en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a bien un savoir qui se développe sur les chaînes de production. Après, on pourrait voir secteur par secteur que c'est compliqué de passer à la deuxième étape, parce qu'il y a quand même bien un plan en 3 étapes qui a été établi par les autorités chinoises. Mais l'étape simplement de conception, il ne faut pas s'imaginer que c'est quelque chose qui ne sert à rien.
Mais c'est ce que les États-Unis se sont imaginés. C'est peut-être pour ça qu'ils ont sous-estimé cette montée en puissance technologique de la Chine.
Il y a beaucoup de gens qui se sont imaginés beaucoup de choses sur la Chine, que la Chine resterait l'usine du monde, ce qu'elle n'est plus. Je veux dire, aujourd'hui, une partie des panneaux solaires fabriqués par les entreprises chinoises sont fabriqués en Malaisie. Donc l'idée que la Chine c'est l'usine du monde, c'est une idée qui n'est plus vraie depuis déjà un certain nombre d'années. Et puis les Occidentaux se sont aussi imaginés que la Chine deviendrait démocratique parce qu'on lui accorderait la clause de la nation la plus favorisée en 1993, 3 ou 4 ans, enfin 4 ans après le massacre de la place Tiananmen. Et on s'aperçoit que là aussi, sur ce calcul, comme d'habitude, on s'est trompé.
C'est en tout cas dans ce contexte où la Chine affiche de plus en plus ses ambitions, qu'intervient l'affaire Huawei. Pour rappel, en décembre 2018, la directrice financière du géant chinois des télécoms et fille du fondateur de l'entreprise est arrêtée au Canada. La tension monte et culmine avec la publication par les États-Unis d'un décret en mai dernier interdisant aux sociétés américaines de travailler avec les firmes chinoises. Écoutons la réaction de Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois.
Huawei est un exemple typique. En utilisant le pouvoir de l'État, la répression sans fondement menée par Washington sur une compagnie chinoise est une agression économique caractéristique. Comme le dit un vieux dicton, une cause juste attire de nombreux soutiens, une cause injuste en trouve bien peu. Une approche aussi égocentrique par les États-Unis n'obtiendra pas la reconnaissance et le soutien de la communauté internationale.
Sophie Collier, il faut voir dans l'affaire Huawei, il y a la crainte des États-Unis vis-à-vis de l'avance de la Chine dans le domaine de la 5G.
Ça a été un véritable choc pour les Chinois. Le fait que, donc très sûr de ce plan Made in China 2025, de tout l'investissement qui a été fait là-dessus, des progrès de Huawei, qui est quand même un groupe énorme. On a tendance à s'en rendre compte aujourd'hui avec la 5G, mais c'est un très grand groupe.
Et l'un des rares groupes chinois à s'internationaliser.
Qui est très international et tout le monde était bien content parce que sur la 5G, ils sont particulièrement en avance. Donc ils sont partis un peu en conquérant du monde. Ils travaillent beaucoup avec les États-Unis, où ils s'approvisionnent également. Ils travaillent beaucoup en Europe, où ils s'approvisionnent également. C'est-à-dire qu'ils achètent des composants et ils revendent ces fameux routeurs et autres appareils qui permettent de faire des antennes de communication 5G. Ils ont des téléphones. Ils ont progressé extrêmement rapidement sur les marchés européens et américains avec des téléphones qui n'ont pas complètement menacé Samsung et Apple, mais qui ont quand même très vite pris des parts de marché conséquentes.
Cette offensive américaine, pardon de vous interrompre, est-ce que c'est vraiment le signe de la crainte des États-Unis de perdre ce leadership
technologique ? Et là, ça a été tout à fait. Ça a été alors pour plusieurs raisons, parce que les géants du numérique américains en ont marre de se faire piller, de voir leur part de marché qui s'érode tranquillement en Chine et du coup de voir les Chinois arriver sur leur propre marché. Et quand Trump a publié le décret, l'administration Trump a publié le décret interdisant aux Américains de s'approvisionner et de vendre des composants électroniques aux Chinois. C'est là que, de vendre à Huawei et à ZTE, ça a été
autre géant des télécoms
chinois. Ça a été un choc terrible, c'est-à-dire que les Chinois se sont rendus compte que d'une part, on pourrait dire qu'ils ont été démasqués, c'est-à-dire que ça y est, ils étaient à découvert. On voyait bien que leur système de ils veulent devenir les principaux fournisseurs mondiaux et ils sont en passe de gagner sur pas mal de points parce qu'ils ont progressé en technologie extrêmement vite.
Donc l'affaire Huawei est le signe d'une prise de conscience de la part des États-Unis, Jean-Paul Maréchal, de l'avance technologique de la Chine.
Du progrès technologique de la Chine. Parce que derrière avance technologique, je ne sais pas si vous voulez dire que la Chine est devant les États-Unis ou pas.
Sur la 5G, est-ce que ce n'est pas le cas?
Sur la 5G, la preuve que non, puisque l'embargo américain a causé un tort tout à fait considérable aux fabricants chinois. Bon. Donc, dans cette histoire-là, il y a des choses floues et des choses claires. Bon, des choses floues, c'est tout le discours Huawei sert à espionner à droite à gauche. Ça, je veux dire, là, moi, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, bon, et je pense que les gens qui parlent de ça n'en savent rien et ceux qui savent n'en parlent pas. Bon. Donc ça c'est la première chose. En revanche, ce qui est clair, c'est que on ne peut pas dire que cette affaire Huawei, c'est une guerre commerciale. C'est une guerre géopolitique entre la Chine et les États-Unis et on ne peut pas et ça c'est très clair, on ne peut pas la considérer indépendamment des nouvelles routes de la soie et de la volonté de la Chine de pénétrer en Afrique, notamment par l'Afrique de l'Est. Tout à l'heure, on parlait effectivement que les nouvelles technologies, on les trouve partout, et notamment, par exemple, les téléphones portables. Ça révolutionne en ce moment l'agriculture. Parce que vous pouvez avoir un bulletin météo, et donc l'agriculteur africain, il a à sa disposition une quantité d'informations tout à fait importante, et en plus, il peut recharger son téléphone portable sur un panneau solaire. Donc on n'a pas besoin de fil de cuivre, de réseau, etc., etc. Et donc la crainte des Américains, c'est quoi? C'est que finalement la Chine inonde l'Afrique de smartphones à 1 ou 2 dollars et verrouille le marché. Et donc renforce son influence sur le continent africain. Donc je pense que, voyez, voir ça simplement à partir du prisme économique, c'est passer un peu à côté du sujet.
Guerre économique et guerre d'influence.
Guerre d'influence, bien sûr.
Et guerre d'influence parce que les Américains ont régulièrement... Il y a une parano en ce moment, par exemple, sur les campus, où ça y est, les étudiants chinois sont stigmatisés, on les regarde de travers, on n'ose plus leur parler, on les fait plus rentrer dans les labos. C'est donc guerre d'influence parce que les Américains ont compris que Ils ont un peu peur de revivre ce qu'ils ont vécu avec le Japon dans les années 80, quand les Japonais sont mis à développer les programmes de calculateurs de cinquième génération, etc., où d'un seul coup, ils étaient devenus très puissants en informatique, alors que, bon, ils se sont rattrapés. Et là, ils se disent, est-ce qu'on va pouvoir se rattraper? Parce que, oui, les Chinois sont en train, ils ont à la fois le nombre, les investissements massifs, tout ce savoir-faire, avec une chose importante qu'il faut pas oublier et qu'il faut quand même préciser, c'est il y a aussi un enjeu électoral pour Donald Trump qui est important. Il s'en fout un peu de la techno, c'est pas son truc. Il est pas très sensible à ce sujet-là. Il se laisse un peu mener, mais il y a pour lui un enjeu électoral.
Je voudrais simplement vous entendre, Xavier Brucker, sur l'importance de cette 5G. On voit qu'il y a des débats autour de cette question. C'est une technologie qui serait aussi révolutionnaire qu'on le dit, d'autant que certains font valoir le coût écologique de la mise en place de cette 5G.
Oui, alors il y a toujours des débats sur les progrès des télécoms. Alors, on pourrait voir la 5G comme une évolution. Avant, on avait la 3G, ensuite on a eu la 4G, maintenant on a la 5G. C'est une
certains disent
polinaire.
Que le gap est beaucoup plus important, l'écart beaucoup plus important entre la 4G et la 5G.
Oui, le gap est très important en termes de débit de télécom, bien sûr. Mais en fait, la 5G, c'est surtout des nouveaux usages qui vont arriver et qui n'étaient pas permis par les anciens systèmes. Donc en fait, la 5G va plutôt apporter des choses que les gens ne verront pas en réalité, parce que les gens peuvent déjà voir des vidéos YouTube sur leur téléphone largement avec le débit qui est suffisant. La 5G va plutôt apporter des nouveaux usages qui sont liés à ce qu'on appelle les usages connectés, connecter des voitures, connecter des véhicules à l'environnement, connecter ce qu'on appelle Smart City, donc tous ces nouveaux usages qu'on nous promet typiquement en CES, qui arrivent petit à petit, tous les objets connectés, avec deux caractéristiques.
Pour les auditeurs, le CES, le Grand Salon de Las Vegas.
Le Grand Salon de Las Vegas, oui. Et donc avec une caractéristique très importante dans la 5G par rapport aux versions antérieures, c'est le... C'est un peu technique, mais c'est le délai de latence, c'est-à-dire le délai de réaction du réseau par rapport à une information qu'on envoie. Typiquement, une voiture qui avance à 130 km à l'heure, pour que ça soit utile et qu'on puisse créer réellement des nouveaux usages, il faut qu'elle ait un délai de réponse qui soit infiniment plus petit que ce qu'on sait faire aujourd'hui qu'avec 4G. Donc c'est plutôt ce type d'usage qui va être généré par la 5G que des réelles nouveautés pour les consommateurs.
Et alors comment cette rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine se traduit-elle concrètement? On va voir cela dans un instant.
Culture. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Roquigny.
C'était Robot Man de Connie Francis sur France Culture. Entendez-vous l'écho? Jean-Paul Maréchal, Sophie Collier et Xavier Brucker sont toujours avec nous pour parler de la bataille mondiale de la high-tech. Alors Sophie Collier, vous avez publié il y a quelques jours dans le journal Le Monde un article intitulé « Dans le high-tech, la démondialisation est lancée. Les menaces de Trump d'augmenter encore les taxes douanières poussent les pays à réorganiser leur chaîne de production mondiale ». Expliquez-nous cela.
Oui, parce que ce qu'il faut voir, les États-Unis exportent un peu vers la Chine, mais pas suffisamment. Ils exportent à peu près 120 milliards de dollars. En 2018, c'était ça. Ils importent 540 milliards de dollars de la Chine. Donc ce déficit commercial est très important. Donald Trump ne le supporte plus. Ça le rend dépendant sur certaines choses. Ce qu'il faut voir, c'est que sur le marché américain, tout est made in China, quasiment. Sauf les iPhones qui sont designed in California, assembled in China. Donc il y a
une volonté du côté des États-Unis comme du côté de la Chine de ne plus dépendre de leur principal rival.
La Chine, c'est une volonté politique de devenir indépendant sur tout un tas de domaines et surtout de s'auto-alimenter en composants électroniques, en systèmes informatiques et dans tous les domaines, dans quasiment tout. Ils veulent ne plus dépendre de l'extérieur.
Sachant qu'ils sont particulièrement en retard dans le domaine des semi-conducteurs, par exemple.
Oui, alors ça je vais en reparler, mais les États-Unis, du coup, pour eux, l'enjeu, c'est de retrouver. Donc les taxes visaient surtout à ça, parce que sur les 540 milliards de dollars importés de la Chine que j'évoquais, il y en a 130 qui sont essentiellement de la haute technologie, du numérique. Des téléviseurs, des smartphones, des composants, des objets connectés, des choses comme ça. Donc l'idée de cette guerre de taxes, c'est de casser cette dépendance. Et pour la casser, les conséquences de la volonté de l'administration américaine sont que les grands acteurs du numérique sont en train de se dire maintenant, si je peux plus produire en Chine, ou si je peux plus vendre en Chine, ou si je peux plus m'approvisionner en Chine, qu'est-ce qui se passe? Donc ils commencent tous à étudier un peu.
Ils partent beaucoup au Mexique, mais encore plus en Asie du Sud-Est.
Alors la signature de l'accord Canada, Mexique, États-Unis est arrivée au bon moment pour effectivement certains sont en train de considérer GoPro, par exemple, a créé une usine au Mexique pour ses caméras, ses petites caméras embarquées. Et ça, c'est pour les marchés nord-américains et sud-américains, mais ils continuent à produire en Chine pour le reste du monde. De plus en plus, les stratégies vont se faire comme ça. La conséquence de ça, c'est que cette chaîne de valeur globale, qui est vertueuse pour les différents acteurs, parce que les pays développés, les pays en développement gagnent un peu en savoir-faire, gagnent en économie, évidemment. Les pays développés trouvent des main-d'œuvre à bon marché, trouvent, voilà, tout ça est bien organisé, fonctionnait bien. D'ailleurs, les géants du numérique fonctionnent bien parce qu'ils ont des marchés globaux. Et enfin, fonctionnent bien au sens sont rentables parce qu'ils ont des marchés globaux. Si on commence à déstructurer cette chaîne de valeur, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ils réfléchissent tous un peu à aller voir ailleurs. Le problème, c'est que ben, vous ne déplacez pas une usine comme ça, d'un coup.
Alors justement, c'est ce qu'on voit en Asie du Sud-Est. On a le sentiment que c'est le Vietnam, notamment, qui est l'un des grands gagnants de la guerre technologique entre la Chine et les États-Unis. Un certain nombre d'usines ont été délocalisées. Mais en effet, il va falloir un peu de temps pour former la main-d'œuvre. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Paul Maréchal, sur le temps nécessaire et que le fait que l'assemblage, ça n'est pas que de l'assemblage. Ça nécessite un vrai savoir-faire.
Oui. Ah oui, ça c'est sûr, et l'un des grands succès du régime chinois, c'est d'avoir formé une main-d'œuvre qui est compétente et qui est moins chère que la main-d'œuvre occidentale. À propos des chaînes de valeur, il y a des informations qui sont quand même intéressantes, c'est que, par exemple, on sait aujourd'hui que le Pentagone a demandé aux grands industriels américains de voir et de signaler les partenaires chinois qui étaient impliqués dans les chaînes de production. Bon, pourquoi? Parce que effectivement, il y a eu des anecdotes assez retentissantes le jour, mais ça remonte à une dizaine d'années, quand les Américains sont aperçus qu'ils avaient dans des missiles de croisière des composants électroniques qu'ils croyaient être fabriqués à Taïwan et qui en fait étaient fabriqués en Chine. Donc voilà, je pense qu'ils ont mis du temps à s'en apercevoir, mais c'est maintenant c'est le cas et on peut très bien imaginer, mais vous avez raison de le dire, c'est-à-dire c'est pas dans un horizon de quelques années, mais on peut très bien imaginer, si vous voulez, que vous ayez deux systèmes économiques, hein, un qui soit centré autour des États-Unis et un qui soit centré autour de la Chine, et qu'on assiste à un démantèlement progressif des chaînes de valeur. Et donc effectivement, c'est pas facile du côté américain, mais c'est pas facile non plus du côté chinois, parce que effectivement, pour le moment, les Chinois sont encore extrêmement dépendants des technologies, alors américaines ou occidentales de manière générale. Et le secteur aéronautique est une parfaite illustration de cela. Mais le secteur automobile aussi, quoi que on puisse dire ici ou là, on voit quand même la grande réactivité des constructeurs automobiles européens, voyez, par rapport à la voiture électrique. Il y a quelques années, on vous expliquait que les constructeurs chinois allaient envahir le monde de voitures électriques. Pour le moment, les seules voitures électriques qu'on voit en Europe, ce sont des voitures occidentales. Et quand vous allez en Chine, vous comptez combien il y a de voitures chinoises qui roulent dans les rues de Shanghai ou de Pékin, ben vous en trouvez pas beaucoup.
Et c'est en tout cas pour sortir de cette dépendance vis-à-vis des États-Unis que la Chine, par exemple, à travers Huawei, a essayé de développer davantage des systèmes d'exploitation maison pour ne plus dépendre de Google en particulier, Xavier Brucker.
Oui, alors là, ils n'ont pas eu le choix, puisque dans les décrets américains, le Android, qui est un système théoriquement open source, mais qui est en fait maîtrisé par Google, n'a, de manière très très soudaine, été interdit de vente en Chine. Donc Huawei s'est retrouvé avec des téléphones en termes de hardware sans pouvoir mettre de système d'exploitation dedans.
Mais il a été capable de le faire, de créer ce
système.
Oui,
alors après, il faut mettre un peu de bémol parce que ils ont créé un système d'exploitation qui est de qualité nettement, mais très nettement inférieure à Android ou à iOS pour Apple. Et donc, on voit qu'il y a encore un progrès à faire. Mais néanmoins, comme on disait tout à l'heure, les Chinois ont pris conscience de cette dépendance quand même extrêmement forte vis-à-vis des technologies occidentales et sont depuis en train de développer de manière très très rapide un nouveau système d'exploitation exclusivement chinois qui pourront mettre dans les téléphones Huawei, qui va créer un nouvel écosystème d'applications et de marketplace qui sera chinois.
Sophie Collier, puis Jean-Paul Maréchal.
Il ne faut pas oublier que, effectivement, alors la Chine vient d'annoncer qu'ils avaient leur plan 30-50-20 qui consiste à enlever, à siniser l'informatique de toute l'administration chinoise, donc 30% en 2020, 50% en 2021 et 20% restant en 2022. Donc, plus d'ordinateurs étrangers, etc. Et ils ont pour eux un gros atout qui s'appelle Lenovo. Lenovo, qui est un fabricant d'ordinateurs qui est apparu dans les années, à la fin des années 80, début 90, qui a racheté en 2005 les ordinateurs portables et de bureau, enfin les PC d'IBM, hein, qui s'est fortement développé autour de ça et qui aujourd'hui est tout à fait capable de produire des millions d'ordinateurs pour l'administration chinoise qui n'a pas besoin des autres.
Donc une indépendance en marche, mais qui va se heurter quand même à des obstacles. On parlait du retard chinois dans le domaine des semi-conducteurs, mais aussi dans l'aéronautique, Jean-Paul Maréchal.
Oui, mais c'est-à-dire que si le fait que la Chine découvre le fait qu'on parle ici de l'indépendance chinoise vis-à-vis de l'extérieur, ça n'a rien de nouveau. Enfin, je veux dire, dans le domaine aéronautique, c'est exactement ce que les Chinois ont découvert dans les années 60, mais vis-à-vis de l'Union soviétique à l'époque. C'est-à-dire que le jour où les soviétiques ont replié bagages, les Chinois se sont retrouvés avec des usines dont ils ne savaient pas trop quoi faire. Dans le domaine aéronautique, bien sûr, aujourd'hui, si vous prenez le programme phare qui est censé concurrencer l'Airbus 320 et le Boeing 737, c'est l'avion, le C-919 chinois. Mais pour le moment, il n'a pas été certifié. C'est-à-dire que les Chinois rencontrent des grosses difficultés malgré que cet appareil est essentiellement constitué par des éléments qui sont fournis par des constructeurs européens ou américains. Safran, Honeywell, Liebherr, etc. pour les différents systèmes. Et il y a une chose d'ailleurs qui est intéressante, c'est quand vous allez sur le site du constructeur chinois ou quand vous allez discuter avec ses représentants, par exemple au Salon du Bourget, ils vous expliquent que ce qui fait la qualité de l'avion, c'est justement qu'il embarque des systèmes qui sont des systèmes occidentaux. Donc vous voyez, c'est assez paradoxal aussi. C'est-à-dire que il y a une communication d'un côté, c'est un avion chinois, et quand vous prenez les documents, on vous dit, attendez, il y a Zodiac Aerospace, il y a Safran qui est dans la boucle. Et donc l'idée en fait des Chinois, c'est de faire en sorte, dans un premier temps, d'assembler des avions étrangers, la fameuse chaîne d'Airbus à Tianjin, qui est la première chaîne inaugurée par Airbus en Chine, et puis ensuite de faire des avions chinois avec l'aide de partenaires étrangers, pour ensuite faire des avions complètement autonomes. Et quand on dit aujourd'hui que finalement le C-919 peut concurrencer la 320, ça c'est pas vrai et on peut très bien montrer pourquoi. Mais en même temps, ça veut pas dire que son fils ou son petit-fils...
C'est ça, c'est pas vrai maintenant.
C'est pas vrai maintenant, mais parce que le Boeing 707, il était pas rentable. L'Airbus A300, ils étaient pas rentables. Et ça a créé des familles d'avions qu'ils sont.
D'autant qu'il y a des investissements financiers considérables. Le fait que la Chine a créé sa propre bourse des entreprises de nouvelles technologies, son concurrent du Nasdaq, le Star Market, ce qu'on voit, c'est que vraiment, cet investissement financier, il est très important, Sophie Collier.
Alors, le plan, rien que pour donner un chiffre, le plan Made in China 2025, c'est 300 milliards de dollars d'investissement. C'est aussi reproché d'ailleurs, c'est assez lourdement par les États-Unis, que la Chine soutient beaucoup ses entreprises publiques, hein, les entreprises dans lesquelles elle investit, et les appels d'offres sont rédigés de telle manière que les entreprises privées chinoises ne parviennent pas à s'y inscrire et à répondre. Donc ça, c'est un problème. Mais il y a effectivement là une vraie volonté aussi de... Ils investissent tellement massivement que, pour reparler des semi-conducteurs, par exemple, ils sont domaine dans lequel ils sont particulièrement fragiles et très en retard. Et donc l'interdiction d'importer des composants américains a été un vrai choc pour eux. Donc là, ils ont lancé un plan. Ils veulent créer une usine, mais une usine de semi-conducteurs, c'est 10 milliards de dollars d'investissement. Donc ça se fait pas comme ça facilement. Donc ils ont prévu d'investir. Les Chinois veulent investir 150 milliards dans le développement de leur filière semi-conducteur. Mais c'est pas gagné.
Donc ça, c'est pour la fragilité côté chinois, mais du côté des États-Unis, il y a un besoin de se fournir en terres rares qui sont principalement produites par la Chine.
Ces 10 ou 15 dernières années, la Chine s'est taillée la part du lion dans l'extraction et la production proprement dite, mais aussi dans l'industrie de la séparation des terres rares. Aujourd'hui, environ 97% des terres rares sont transformées en Chine, qui se retrouvent ainsi en position dominante sur le marché.
Das Si la Chine peut fournir 97% du marché, c'est uniquement parce qu'elle a une main-d'œuvre bon marché et des coûts très bas. L'extraction du minerai là-bas a un coût bien moins élevé qu'aux États-Unis, par exemple. Qu'un pays protège ses mines en les laissant inexploitées revêt aussi une importance géostratégique. Moi aussi, j'économiserais mes réserves si je trouvais le même produit moins cher sur le marché. Pérenniser ces réserves de matières premières est un choix pertinent.
Voilà, selon l'usine nouvelle, la Chine contrôle environ 80% de l'extraction et plus de 90% de la chaîne de transformation des terres rares. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Jean-Paul Maréchal ?
Mais on en est arrivé là parce que, en fait, les terres rares n'existent pas qu'en Chine. Hein, il faut le préciser pour nos auditeurs. Hein, des terres rares, il y en a partout. Bon, sauf qu'elles ne sont pas exploitées partout et que les Chinois ont eu la bonne idée d'investir dans ce secteur, qui est effectivement un secteur aujourd'hui, avec le développement des technologies du numérique, qui est présent un peu partout. Bon, donc ça leur donne effectivement un pouvoir de négociation qui est non négligeable.
Présent notamment dans les technologies vertes.
Alors, notamment dans les technologies vertes. Tout à l'heure, on parlait de sommes qui sont investies de manière importante. Par exemple, l'administration de l'énergie de Chine annonçait, par exemple, en 2017 que d'ici 2020, c'est-à-dire sur 3 ans, elle allait investir 360 milliards de dollars dans les nouvelles capacités de production d'énergie, 140 milliards dans le solaire, 100 milliards dans l'éolien, 70 milliards dans l'hydroélectricité. Donc, on voit bien que là, il y a une vraie volonté. Mais ce que je veux aussi ajouter par rapport à ça, c'est que on peut pas reprocher aux Chinois de savoir ce que c'est qu'une politique industrielle. Je veux dire, c'est quand même pas de la faute des Chinois si les Européens ont perdu jusqu'à l'idée même de ce que peut être une politique industrielle. Donc, je pense que là, vous voyez, on a une critique. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas mon cas. Je veux dire, je critique pas du tout les Chinois. Les Chinois veulent faire du rattrapage technologique. Mais qu'est-ce qu'ont fait les Américains vis-à-vis des Britanniques au 19e siècle?
Alors, c'est, il s'agit pas du tout de critiquer passé. La Chine.
Non, mais et on peut tout à fait critiquer la Chine. Ça me gêne pas du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a l'air de découvrir en Occident un truc qui traîne dans les manuels de sciences économiques depuis les années 30 ou 40 ou 50, qui est la notion de politique industrielle. Les Européens, eux, sont les seuls dans le monde à penser que la politique de la concurrence est supérieure à la politique industrielle. Bah, je veux dire, on voit le résultat.
Alors, on va venir à l'Europe. C'est effectivement essentiel. Mais d'abord, sur cette volonté des États-Unis de sortir de leur dépendance vis-à-vis des terres rares. Est-ce que c'est possible, Sophie Collier? Il y a un certain nombre d'initiatives qui commencent à être prises.
Oui, parce que c'est pas, comme le disait Jean-Paul Maréchal, des terres rares, il y en a dans pas mal d'endroits. Les grands fabricants les grands consommateurs de terres rares, que sont effectivement tous les producteurs d'appareils d'électronique grand public, on commence à travailler aussi sur le recyclage, sur la récupération, sur l'optimisation, c'est-à-dire de faire un peu de la conception vertueuse, c'est-à-dire de voir où on peut se passer. On peut pas s'en passer toujours et pas facilement, mais voilà. Donc tout le monde est en train de réfléchir. Si vous voulez, on est à un moment un peu charnière. Ce que disait Jean-Paul Maréchal est juste aussi sur la politique industrielle, c'est-à-dire les États-Unis n'ont pas de politique industrielle. Ils en ont peut-être un petit peu plus que l'Europe, mais j'en suis pas tout à fait convaincue. En tout cas, ils n'ont plus d'industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, créer une filière industrielle aux États-Unis, c'est compliqué. On voit bien la récupération dans le secteur automobile, ça a été.
Et justement, est-ce qu'ils peuvent la recréer en ce qui concerne, par exemple, les terres rares? Cette filière industrielle, et quel sera le coût peut-être de l'extraction, de la production de ces terres rares, Xavier Brucker?
Sur les terres rares, il y a aussi une politique effectivement qui était très agressive de la Chine, qui maîtrisait ses coûts de vente de terres rares, qui était en plus intégrée directement dans les produits en Chine, et qui a fait que les filières de terres rares qui n'étaient pas chinoises, n'étaient pas économiquement rentables. En termes de marché capitaliste, par rapport aux terres rares produites en Chine, ce qui a complètement détruit toutes les filières d'approvisionnement en terres rares indépendantes de la Chine. Donc maintenant, les pays cherchent, enfin les différents pays, dont les États-Unis cherchent à créer des nouvelles sources de terres rares, mais le problème, c'est qu'il y a une distorsion économique sur le prix de vente des terres rares qui reste et qui doit être équilibrée par une politique effectivement industrielle, une stratégie de long terme. terme qui n'existe pas aujourd'hui dans les pays occidentaux.
Alors justement, venons-en à l'Europe. Comment l'Union européenne se situe dans cette guerre technologique qui oppose la Chine et les États-Unis? Je vous propose d'écouter d'abord le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, après l'annonce par les États-Unis de l'interdiction de commercer avec Huawei.
La 5G, c'est une vraie rupture technologique qui est essentielle pour les véhicules autonomes, pour les objets connectés. Donc ça va avoir un impact sur notre vie quotidienne. Mmh. Nous allons déployer la 5G, mais comment est-ce que nous voulons la déployer? D'abord en garantissant notre souveraineté, notre indépendance. Donc nous devons avoir toutes les garanties de souveraineté et d'indépendance. Et en deuxième lieu, en ayant le meilleur niveau technologique. Voilà les deux critères suivant lesquels nous déploierons la 5G dans notre pays. Nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas d'ingérence possible, à ce que notre souveraineté soit maintenue. Et en même temps, nous voulons garantir le meilleur accès technologique pour nos entreprises, pour les particuliers dans notre pays.
Jean-Paul Maréchal, l'Europe et la France est dans une position particulièrement délicate entre la Chine et les États-Unis sur cette question de la 5G.
Là, manifestement, enfin, je suis pas spécialiste des télécoms, quoi, mais sur cette histoire de Huawei, effectivement, on a un peu l'impression que la France marche sur des œufs, en voulant à la fois pas se priver d'un fournisseur chinois et en même temps pas non plus contrarier exagérément les Américains. Bon, ça, c'est, ça me paraît être assez clair, quoi. Je pense que le gros problème de l'Europe, c'est que depuis maintenant un certain nombre d'années, elle est incapable. Je reviens à ce que je disais avant l'interview de Bruno Le Maire, elle est incapable de mettre en œuvre une vraie politique industrielle. Elle a perdu finalement tout horizon stratégique. Mmh. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si quelque chose n'est pas rentable à court terme, on ne le fait pas. On est obsédé par le respect de la concurrence et on va finir avec cette histoire-là par être un peu les idiots du village global. C'est-à-dire que finalement, les États-Unis et la Chine sont les deux pays qui conservent en fait des éléments extrêmement importants de souveraineté en pleine mondialisation, alors que finalement l'Europe se met comme ça dans des filets réglementaires. On discute, regardez, sur des fusions, est-ce que ça va bien respecter les règles du marché, etc. Est-ce que vous pensez sérieusement que Boeing, ou est-ce que vous pensez sérieusement que les constructeurs aéronautiques chinois en ont quelque chose à faire des lois du marché?
Et comment expliquer effectivement qu'on n'arrive pas à créer ce marché unique du numérique que tant de personnes appellent de leur vœu, Sophie Collier? Un vrai problème d'unité?
Il y a un problème d'unité, il y a un problème de pour l'instant, de souveraineté nationale. C'est-à-dire que chacun... moi, je me souviens, je vais paraître très, très, très vieille, mais je me souviens de l'époque de l'informatique. Avant la naissance de l'Europe, à la fin des années 80, les Anglais disaient « Non, mais nous, on a ICL. » Les Allemands disaient « Nous, on a Siemens. » Les Italiens avaient Olivetti, les Français Bull, donc chacun disait mais non, mais on n'a pas besoin des autres. Quand il y a eu l'Europe, ça a été évidemment, là il y a eu les Daimler qui ont commencé à racheter, les Telefonica qui ont acheté ici, là, machin. Ça a commencé à se consolider. Là, on est exactement à un moment, on a fait une Europe politique, on n'arrive pas à faire une Europe du numérique. Alors qu'on en a les standards et qu'on a l'interconnexion, la compatibilité, etc. Donc on a laissé les plateformes américaines s'installer.
Parce qu'effectivement, aucun... les Chinois ont les BATX, on a les GAFA évidemment du côté des États-Unis. On n'a pas l'équivalent en Europe et on se pose la question des investissements. Alors fin août, il y a des officiels européens qui avaient appelé à créer un fonds d'investissement de 100 milliards d'euros pour financer les champions de la tech. On se demande un peu, en effet, ce qu'attend l'Union européenne, surtout à l'heure des taux bas, Jean-Paul Maréchal.
Ah ben, je reviens toujours au même élément. Je ne sais pas si on attend quelque chose, mais à partir du moment où on ne raisonne qu'en termes de marché et que on veut respecter les règles du marché, de toute façon, on n'y arrive pas. Ça c'est l'élément de départ. Je veux dire, si on n'accepte pas ce point de départ, on comprend rien à ce qui se passe. C'est-à-dire que aujourd'hui l'Europe serait incapable de créer Airbus, parce que alors s'il y a vraiment une façon de détourner les lois de la concurrence, c'est bien la création d'Airbus il y a 50 ans. Pour autant, on l'a fait. Bon, vous voyez, vous avez là deux manières. C'est-à-dire qu'en fait, le schéma américain dans l'aéronautique, c'est de se servir du militaire pour développer le civil. Et Boeing est l'exemple parfait de ça, et on pourrait prendre plein d'autres constructeurs américains dans l'aéronautique, et c'est comme ça que ça s'est passé. Dans le modèle européen, c'est une autre façon de détourner la concurrence il y a 50 ans, c'est-à-dire que on crée le consortium Airbus et on met de l'argent dedans. Voilà. Et on pénètre, rappelez-vous, enfin, vous êtes trop jeune vous, mais enfin, comment Boeing pénètre sur le marché américain en disant à Eastern Airlines, les avions, on vous les prête. C'est-à-dire, c'est gratuit, et si ça vous plaît, vous les achetez à la fin. Je veux dire, aujourd'hui, ça serait impensable de faire ça, y compris en Europe. Donc, tant qu'on n'aura pas une politique industrielle cohérente, voilà, on ne pourra pas créer de géants. Et moi, je vous prends le pari, c'est que le fameux avion de combat futur qui doit être fait entre la France et l'Allemagne ne sera pas fait. Pourquoi ? Parce que, évidemment, on n'a pas de projets qui sont des projets à long terme communs.
La politique européenne de la concurrence est une entrave à la création de géants européens, Sophie Collier ?
Je pense, oui, parce que du coup, c'est...
Enfin, si j'ai notamment pas l'habitude d'avoir une
opinion, je relaye plutôt celle des autres, mais je pense que là, en témoigne ce qui est en train de se passer en intelligence artificielle. Les grands Américains, les grands Chinois sont en train de créer des centres de recherche en France, autour de l'université, autour d'INRIA, et pompent du savoir-faire et de la propriété intellectuelle. Ils rachètent les start-up les plus prometteuses et ils les intègrent dans leur giron. Donc, alors que si en Europe on avait l'idée de se consolider, d'être moins anglophobe, alors pardon, ils sont plus tout à fait européens, d'être plus curieux de ce que font les autres et de voir comment éviter de réinventer la roue et travailler ensemble.
Et les conséquences risquent d'être importantes, en l'occurrence, pour revenir d'un mot sur la 5G. Est-ce que, selon vous, Xavier Brucker, l'Europe peut se permettre de se passer de Huawei ?
Alors oui, on peut se passer de Huawei. Ça demande.
Cela risque pas d'entraîner des retards très importants qui menaceraient les entreprises européennes par rapport aux entreprises chinoises ou américaines.
Fondamentalement, le problème, c'est que les acteurs européens de télécom sont pas au niveau de Huawei et des grands acteurs américains. Donc si on va pas chez Huawei, on va chez des Américains, a priori, plus quelques acteurs européens, mais plutôt de deuxième niveau.
Donc d'une dépendance à l'autre.
Une dépendance à l'autre, et en plus, il y a un problème économique, c'est que interdire Huawei, ça veut dire imposer des matériels qui sont beaucoup plus chers. Donc la question, on revient à la question stratégique industrielle de fond pour l'Europe, c'est de quelle façon on finance l'acquisition de matériel éventuellement américain ou même européen, qui seront a priori beaucoup plus chers que ceux de Huawei.
Alors on arrive presque au terme de cette émission, je voudrais vous entendre sur une conclusion, peut-être sur la question de la coopération dans le secteur de la high-tech. C'était un terme qu'on pouvait trouver dans la bouche de Xi Jinping, le dirigeant chinois. Alors est-ce que c'est un vœu pieux ? Est-ce qu'une coopération dans le secteur de la high-tech est possible selon vous, Jean-Paul Maréchal ?
Entre qui et qui La coopération au sein de l'Europe, vous voulez dire, ou entre l'Europe et la Chine ?
Entre l'Europe, la Chine, les États-Unis, est-ce qu'une certaine coopération est possible ?
Moi, je pense que effectivement, une certaine coopération est possible. Maintenant, effectivement, avec la montée en puissance de la Chine, cette coopération est empreinte de méfiance. Mais je pense que de toute façon, la coopération est possible et elle est d'ores et déjà effective. Je veux dire, dans beaucoup de secteurs économiques, que ce soit l'automobile, l'aéronautique ou n'importe quel autre secteur, enfin pas n'importe quel autre, mais beaucoup d'autres secteurs, vous avez des coopérations. Simplement, effectivement, c'est empreint de méfiance, c'est-à-dire que maintenant, les différents opérateurs se méfient de ne pas non plus céder trop facilement des secrets de fabrication.
Un dernier mot à Sophie Collier.
Pour moi, la réponse est oui, tout est possible si on évacue les politiques et si on redéfinit une politique industrielle. Oui.
Cette fameuse politique industrielle sur laquelle on reviendra sûrement dans des prochaines émissions et qui est un petit peu une arlésienne qu'on entend depuis des années, en effet. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois, Jean-Paul Maréchal, Sophie Collier, Xavier Brucker, d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir emmenés sur le champ de bataille de cette guerre pour le leadership technologique. La semaine prochaine, nous poursuivons notre série sur les voies impénétrables du néolibéralisme. La France est-elle un État néolibéral ? On posera la question au politiste Bruno Palier et au juriste Nader Hakim. Let's call it the truth. Just follow the movement. And if you don't want to lose, you don't need no improvement. No, I do believe that if you wait much longer, that I'll never leave until I pull the trigger. I don't mind if you fight it. I don't care if you need it. I don't mind if you fight it. On se quitte avec le quatuor francilien Forme et son titre Trigger. Et on se retrouve lundi à 14h. D'ici là, n'hésitez pas à écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Excellent week-end à l'écoute de France Culture.